Ready? You have the cameras rolling?
Gave alternative facts to that, but the point remains.
Wait a minute. Alternative facts?
They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that is.
President Trump has just been impeached on both Article 1, abuse of power, and on Article 2, obstruction of Congress.
I want nothing. I want no quid pro quo.
Vice
President Joe Biden has been elected president.
Gee, what happened? Come on, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections.
Nous sommes le lundi 28 décembre. Bienvenue dans le cinquième épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans 23 jours, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, du golf, des millions, le 6 janvier, Mike Pence, l'importance des mots et le coup d'État. Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets, si ce n'est pas déjà fait, de vous inviter à écouter l'épisode 4 de La Chute, une édition spéciale de 45 minutes avec Jean-Éric Brana, où nous avons échangé sans langue de bois autour de Trump, de Biden et de tous ces sujets qui vous fascinent. Cela devrait vous plaire. C'est le moment aussi de vous rappeler combien vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos pouces de soutien, vos 5 étoiles et surtout vos partages sont importants pour la visibilité de ce podcast. Merci.
I'm going to be working for you. I'm not going to have time to go play golf. Believe me.
We all love golf. There are times to play and there are times that you can't play. It sends the wrong signal.
Si vous ne l'avez pas reconnu, c'était Donald Trump en 2016. En pleine campagne, le candidat républicain promettait qu'une fois élu, il serait tellement occupé qu'il n'aurait pas une minute de libre pour jouer au golf. Hier, dimanche, Trump s'est donc retrouvé sur un de ses greens pour la 289e fois depuis le 20 janvier 2017. 289. Jacques Chirac, l'ancien président français, disait que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Certes, mais au-delà de l'argument de campagne, Trump et le golf est un sujet sur lequel il faut se pencher. D'abord pour livrer un petit retour historique. Trump, le golf, la Maison-Blanche et les présidents, c'est d'abord une manière de s'attaquer à son obsession, Barack Obama. Sur Twitter, dès 2014, avant donc même d'être candidat, puis ensuite lors de la campagne de 2016, Trump parle de golf pour critiquer Obama, à qui il reproche une passion excessive pour ce sport. Et effectivement, Obama aime jouer, surtout lors de ses vacances annuelles à Hawaï. En 8 ans de présidence, il a golfé 333 fois, un total plus important que Trump, mais sur une période doublement plus longue. Trump président a donc passé plus de temps sur les terrains de golf que son prédécesseur. Et le coût est phénoménal. Selon les projections du Huffington Post, des projections raisonnables, basées sur des documents officiels, les sorties de golf de Trump ont déjà coûté plus de 151 millions de dollars aux contribuables américains. Ce total comprend les transports en avion présidentiel, en hélicoptère ou en convoi, le Secret Service et tous les coûts de protection. Si ces frais sont en forte hausse, c'est parce que Trump joue uniquement dans ses propriétés. C'est une différence de taille, car Obama, au-delà de ses vacances hawaïennes, choisissait majoritairement des golfs sur des bases militaires à proximité de la Maison-Blanche. J'insiste sur ces chiffres, car ils me permettent de remettre en avant un élément de mise en scène de Trump en candidat populiste, celle de reverser son salaire de président. Chaque année, effectivement, Trump renonce à son salaire de 400 000 dollars. C'est bien, cela fait un argument électoral. Mais de l'autre côté, ses sorties au golf ont coûté l'équivalent de 379 années de salaire présidentiel. Oui, vous avez bien entendu, 379 années. Pourquoi commencer cet épisode de La Chute par le coût exorbitant de la passion de Trump? Car ces derniers jours, il est devenu encore plus indécent. Avant de quitter Washington pour la Floride, Trump s'est vengé. Les sénateurs républicains ont commis l'affront suprême de reconnaître la victoire de Joe Biden. Alors Trump a refusé de signer le plan de relance pour répondre à la pandémie et a mis son veto sur le budget militaire, déclenchant une crise pour des millions d'Américains. Des soldats privés de soldes, 12 millions de chômeurs coupés de leurs aides, des citoyens courant le risque d'être expulsés. Et pendant ce temps, Trump, lui, joue au golf. Bien sûr, si comme des dizaines de millions de supporters du président, Vous suivez l'actualité qu'à travers sa timeline sur Twitter, seul lieu habilité à partager la vérité présidentielle, votre perception va être différente. Vous y découvrirez Trump en héros du petit peuple, se battant contre Washington. C'est une des signatures de Trump. Créer un problème et se présenter ensuite comme le sauveur. Même s'il ne se passe rien derrière. L'annonce, toujours l'effet d'annonce. Et c'est exactement le cas ici. Puisque dimanche soir, avec un jour de retard sur les délais, après avoir juré, craché, promis qu'il ne le ferait pas, Trump a finalement signé. Son caprice présidentiel, entre deux parties de golf, aura des conséquences. Le délai à la signature va entraîner une interruption des versements de plusieurs semaines. Les Américains apprécieront. Il y a autre chose que vous ne verrez pas sur sa timeline. Des tweets de compassion pour les familles des 330 000 Américains morts de la Covid. Par contre, vous verrez que toute l'énergie présidentielle est consacrée à dénoncer la fraude qui lui aurait coûté son second mandat, avec un nouveau focus sur la prochaine étape, le 6 janvier, et le vote du Congrès. Ce n'est pas la première fois que Trump et ses supporters mettent en avant une date comme étant la date, celle qui va tout changer. Cela fait partie de la beauté du plan. Lorsque la date est dépassée et que les effets annoncés ne sont pas produits, Trump fait comme si rien n'était et balance la prochaine. Le 6 donc, avec une pression de plus en plus forte sur les sénateurs républicains et Mike Pence. Les sénateurs pour qu'ils refusent de valider les certifications des grands électeurs. Et Mike Pence pour utiliser son poste de président des débats pour faire quelque chose qui n'est pas prévu, mais qui permettrait à Trump de rester à la Maison-Blanche. Rassurez-vous, la manœuvre du 6 janvier ne passera pas, car Trump a besoin d'une majorité à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, et au Sénat. Mais le problème n'est pas là. Il ne l'a jamais été. Nous avons eu le travers, moi le premier, d'être factuel et donc rassurant. Les tentatives de Trump allaient échouer car les institutions américaines seraient plus solides que ses aspirations dictatoriales. C'est vrai. Heureusement. Mais nous aurions dû porter plus attention sur sa tentative et la nommer. Hier, sur mon compte Twitter, @WilliamRaymond, j'écrivais ceci. Dans l'analyse politique, on a tendance à surévaluer Trump, comme s'il jouait une partie d'échecs avec plusieurs coups d'avance. Les dons, la base, alors que peut-être nous assistons à autre chose, de l'ordre psychiatrique, ou bien encore plus terrifiant, un coup d'État. Les coups d'État ne se jouent pas forcément dans les rues, derrière des barricades, avec des forces armées. Inspiré par un thread de Steve Lisman, voici ce qu'a fait Trump depuis le 3 novembre. D'abord, il a réussi à convaincre des dizaines de millions d'Américains que leur système électoral était pire que celui d'un pays du tiers-monde. Que la fraude était telle qu'ils ne devaient pas croire le résultat des élections. Ensuite, il a demandé près de 60 fois à des juges d'invalider le vote de millions d'Américains, principalement celui de Noirs américains. Il a soutenu aussi la démarche du Texas, devant la Cour suprême, pour annuler 20 millions de votes dans 4 États. 20 millions. Il a utilisé son pouvoir présidentiel pour mettre la pression sur des élus locaux et des employés en charge des élections pour qu'ils changent le résultat d'un scrutin validé par plusieurs au comptage. Enfin, il a demandé et obtenu que plusieurs élus du Congrès renoncent à reconnaître le processus démocratique par pure allégeance à sa personne. On peut appeler tout ça comme on veut. On peut évoquer le caprice, le refus de perdre. Mais pour moi, mis bout à bout, ce n'est rien d'autre qu'une tentative de coup d'État. Sans canon, ni violence, mais un coup d'État quand même. Le 6, cette tentative de déstabilisation du pays et de maintien au pouvoir va prendre une nouvelle envergure. Au-delà de la pression exercée sur les élus, Trump vient d'appeler à la manifestation dans les rues de Washington. Repensez à tout ce que je viens de vous dire. Et ajoutez maintenant ce fait. Le président des États-Unis, battu au terme d'un processus démocratique, demande à ses supporters de venir manifester en masse au moment où le Congrès votera la victoire de Joe Biden, au moment où le gouvernement n'est pas en mesure d'aider les Américains. En 2014, Trump, pas encore candidat, revenait sur ce qu'il percevait comme une décadence des États-Unis et la manière de s'en sortir. Il déclarait « Vous savez quelle est la solution ? Quand l'économie pique du nez, que le pays se crache et que tout est un désastre, alors nous aurons droit à des émeutes qui nous permettront de revenir au temps où nous étions super. When we were great, make America great again. L'histoire n'est qu'un recommencement. Et en attendant la suite, c'est la chute. Et elle continue demain. » Retrouvez La Chute sur Twitter, @WilliamRaymond. Hashtag La Chute sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.